Bandaka sur Fou 3.
À l'Équateur, dans les cadres de la lutte contre les violences sexuelles, 4 tonnes, comme je l'ai dit, de produits pharmaceutiques d'une valeur d'environ 33 000 dollars américains ont été remis la semaine dernière au soutien sanitaire des zones de santé appuyées par l'UNFPI. Jean-Michel Liboula a fait nous fera suffisamment la lumière autour de cette question. Jean-Michel, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, hier je suis avec vous. Bonjour également à tous les auditeurs de Radio Capi à qui je souhaite la bienvenue. Ici à Mbandaka, la chaleureuse.
Alors, on vient de l'apprendre, à Mbandaka, l'agence onusienne, Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPI en sigle, vient de faire un don en médicaments aux victimes des violences sexuelles de l'Équateur. Est-ce que les modalités pratiques de l'utilisation de ces dons sont clairement établies afin de prévenir des disputes éventuelles de ce don?
Ainsi, j'irai. Ce qu'il faut savoir d'abord est que le don qui est composé de 4 tonnes, vous l'avez dit, a été remis le week-end dernier à quelques structures sanitaires ciblées dans 4 zones de santé appuyées par l'UNFPI. Mais cette action rentre dans le cadre du projet de lutte contre les violences sexuelles, projet lancé depuis 2009. Quels sont les différents volets que comporte ce projet? Suivez d'abord les explications du docteur Richard Djogolo, médecin directeur du cabinet médical La Foi, membre de la synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles dans la province de l'Équateur.
Dans cette lutte-là, il y avait 3 volets au départ, le volet médico-sanitaire, le volet psychosocial ainsi que judiciaire. Nous avons bénéficié de cet appui de la réhabilitation parce qu'il fallait d'abord renforcer les capacités institutionnelles de structures qui prennent en charge les victimes des violences sexuelles. On a commencé par réhabiliter toutes les structures dans le cadre de ce projet. Après la réhabilitation, on a bénéficié de certaines formations des prestataires à la prise en charge des victimes des violences sexuelles. Les structures sanitaires ont aussi bénéficié de la formation de gestion des commodités ou des médicaments en rapport à la lutte contre les violences sexuelles. Toujours dans le cadre d'appui, il y a eu quelques approvisionnements de médicaments. Depuis 2002, cet approvisionnement a été quand même en plus aussi ce qui concerne le fonctionnement des structures qui étaient dans la lutte. Nous pouvons noter aussi qu'il y a eu quand même certaines irrégularités dans l'approvisionnement de ces médicaments et aussi que la gamme n'était pas toujours complète. Des fois, on donnait des médicaments que les victimes de violences sexuelles ne pouvaient pas utiliser. C'était beaucoup plus d'autres malades qui pouvaient utiliser. Et deux fois, il y avait certains produits qui étaient presque préemptions, qui voulaient un peu périmer, qu'on remettait au niveau des structures. Ce qui a fait que dans certaines structures sanitaires, il y avait déjà des difficultés dans l'approvisionnement des médicaments. Ces structures avaient même des difficultés aussi pour prendre à charge correctement les victimes de violences sexuelles qui arrivaient.
Alors si je comprends bien, c'est donc depuis près de 7 ans maintenant que le projet a été mis en œuvre. Comment les prestataires apprécient l'exécution de ce projet?
Les appréciations diffèrent hier. Il y a à manger, à boire, comme on dit. Mais dans l'ensemble, les 6 structures sanitaires impliquées dans ces projets sont quelque peu sceptiques quant à certains aspects liés à l'exécution du projet, comme l'affirme Dr. Richard Djogolo du cabinet médical La Foi.
On s'est rendu d'abord compte que dans certaines structures, là où on avait des prestataires formés, ces prestataires étaient soit permittés dans la même structure, c'est-à-dire quittent les services de prise en charge des victimes de violences sexuelles vers une autre structure, là où on ne prend pas charge, on envoie quelqu'un qui n'a pas reçu la formation dans ces services-là. Soit que le personnel était totalement muté, soit il était formé ici en Bandaka, mais il a une mutation pour passer en Koussou par exemple. Ce qui a fait que la prise en charge a souffert un peu. Quelqu'un qui n'a pas reçu la formation dans le cadre de cette prise en charge qui est un peu aussi complexe, donc ça posait des problèmes déjà au niveau de consultation de prise en charge. L'autre difficulté c'était par rapport à la disponibilité permanente de médicaments. Pendant 5 ans, je pense qu'il y a eu 4 ou 5 appros de médicaments qui a posé un peu de problèmes. Et à ce niveau-là, on s'est jeté un peu de balles. Les structures disaient que le partenaire qui était chargé de ça, l'UNFPI, il n'arrivait pas à provisionner correctement et aussi de manière régulière. D'autre côté, les partenaires disaient que les structures n'étaient pas capables de mieux gérer les médicaments, de gérer les stocks et de pouvoir lancer aussi des commandes. Donc, ça crée aussi une petite perturbation par rapport à ça.
Alors, puisque la prise en charge des malades victimes de violences doit être gratuite, qu'est-ce que les structures sanitaires qui les soignent tirent comme bénéfice? Il n'y a pas risque que certains produits prennent une autre direction?
Tout à fait, j'y ai. Vos inquiétudes sont fondées. Mais les structures engagées ont quand même bénéficié d'un certain nombre d'appuis en guise de compensation. Lesquels, docteur Richard Djogolo?
Au départ du projet, la coordonnatrice SGBV du projet UNFPA qui était là avait bien dit que les médicaments sont pour les victimes et que les victimes devaient être prises en charge gratuitement, chose qui a été faite. Et il a aussi souligné que ces médicaments-là, les structures pouvaient les utiliser aussi pour d'autres malades, mais en ce moment, ça pouvait être vendu au prix de la structure sanitaire. C'était un moyen de compensation. Par exemple, on peut vous donner 10 cartons de Baxter de sérum glucosé. Combien de victimes ont besoin de perfusion en ce moment-là? On peut vous donner 1000 ampoules d'ergométrine. L'ergométrie, on utilise beaucoup plus chez les femmes qui accouchent. Combien de victimes accouchent? Donc, on ne peut pas laisser les médicaments périmés. C'est dans ce sens-là qu'on avait dit, ces produits-là qui arrivent au niveau de vos structures, c'est un appui à la structure. Supposons qu'une victime de la violence sexuelle fasse un paludisme, on ne va pas les chasser de l'hôpital. Dans la gamme, on ne met pas la quinine. Mais la structure est obligée de prescrire la quinine à la victime et la victime devra bénéficier gratuitement. Par contre, quand on a mis par exemple de l'ergométrie, comme je l'ai dit, la victime de violence sexuelle n'accouche pas, mais on va utiliser ces produits-là chez la femme qui accouche, elle qui va plutôt payer. Et ça va compenser ce que l'hôpital donne gratuitement aussi aux différentes victimes qui arrivent.
Alors cela signifie que tout marche normalement, qu'il n'y a jamais de plainte?
Non, absolument pas. Il ne peut pas manquer de cas CJR. Les années antérieures, par exemple, il est arrivé que certaines victimes se plaignent de la façon dont elles étaient soignées. De son côté, l'INFPI affirme que des mécanismes pratiques ont été mis en place pour assurer une prise en charge correcte et efficace aux bénéficiaires. Docteur Jean-Pierre Kassereka, chef d'antenne intermédiaire de l'INFPI, nous en parle.
Ce n'est pas la première fois qu'on donne ces commodités. Ces structures ont déjà été formées depuis 2004. En principe, chaque mois, la structure fait un rapport de consommation des médicaments. Au même moment, il fait un rapport statistique des cas soignés. Et sur base de ces deux rapports-là, nous savons vérifier la quantité des médicaments consommés si elle correspond réellement au nombre de cas soignés. Et dès que nous constatons qu'il y a une discordance entre les deux rapports, là, nous descendons dans la structure pour une supervision technique afin de vérifier effectivement la destination de ces médicaments-là, puisque quand nous donnons un PEP kit, nous savons à combien de bénéficiaires cela doit être utilisé. Donc si les rapports nous trompent, nous saurons les découvrir.
Voilà, alors Jean-Michel Liboula, vous avez en début de votre intervention dit que les projets de lutte contre les violences sexuelles à l'Équateur lancés en 2002 avaient une durée de 4 ans. Comment expliquez-vous que jusqu'en 2009, les structures sanitaires continuent à bénéficier des médicaments?
Très bonne question, J.R. En principe, le projet devait terminé depuis 2006. Maintenant, le partenaire et les structures appuyées, le déroulement du projet a connu certains aléas, notamment dans la commande, le transport et l'acheminement des produits pharmaceutiques jusqu'au niveau des structures sanitaires appuyées. Quant au prolongement actuel du projet, le Dr Cheikh Mukendi, président de la commission médico-sanitaire de la synergie de lutte contre les violences sexuelles et médecin chef de staff de l'hôpital général de référence de Wangata, le projet qui s'achève a porté ses fruits. On l'écoute.
Je peux vous dire que l'état de la violence sexuelle par rapport au début, maintenant nous sommes un peu au rabais, il y a eu baisse de ces cas de violence sexuelle. Nous avons remarqué qu'au début, avec la guerre, il y avait eu beaucoup de cas. Et maintenant, avec la sensibilisation que nous sommes en train de faire auprès de la population, mais aussi auprès des forces armées congolaises, cette sensibilisation porte un peu de fruits parce qu'on ne se précipite pas à faire ce genre de crimes maintenant. Nous assistons maintenant à des cas vraiment isolés, qui sont commis par la population civile. Parfois, ce sont les éducateurs, les enseignants, les pasteurs. En termes de statistiques, seulement pour la ville de Mbandaka, au cours d'un mois, nous avons la moyenne va de 2 à 5 nouveaux cas, que nous appelons les cas incidents, au cours du mois.
Voilà, Jean-Michel, on s'arrête là. Il est temps pour nous d'accorder la parole à notre invité, Dr Jean-Pierre Kassereka, chef d'antenne intérimaire de l'UNFPI à l'Équateur. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter?
Rien du tout. Ce qu'il fallait noter, c'est que les 4 tonnes de produits pharmaceutiques ont été envoyées à 4 zones de santé qui sont appuyées par l'INFPI, mais David Mbandaka a obtenu plus de la moitié de ces produits qui ont été répartis par 6 structures sanitaires de la ville JR.
Voilà, merci et à très bientôt.
Merci, JR.
Voilà, merci de rester avec nous et si vous nous rejoignez, bienvenue sur la fréquence de la paix et merci de nous accompagner à travers le pays hein, au cours de ce voyage au Capi Action qui traite de sujets qui vous touchent à cœur et qui vous concernent sur le plan social à 100%. Donc nous étions à l'hôpital du Cinquantenaire qui est en construction au niveau du site IM et Fonames et à Kinshasa. Nous avons eu également à faire de la lumière suffisante sur les grands travaux qui sont exécutés à travers le pays et notamment à Kinshasa autour de la modernisation de certaines artères de la capitale. Vous avez tout suivi. Roger Boussima, ADG, donc directeur général de l'agence congolaise de grands travaux. Et nous n'avons pas oublié de faire un petit tour du côté de Mbandaka où nous avons fait un petit coucou à notre confrère Jean-Michel Liboula avec lui. Nous avons fait le point autour de 4 tonnes de médicaments aux zones de santé appuyées par l'UNFPI. Jean-Michel Liboula nous en avait parlé. Il est temps pour nous de prendre notre invité pour avoir beaucoup plus d'éclairage autour de cette question. Nous vous rappelons nos deux numéros pour participer à cette émission, à savoir le 081-070-2050 pour les SMS et le 081-890-6394 pour les appels en direct. Nous avons en ligne notre invité, Dr Jean-Pierre Kasereka, chef d'antenne intérimaire de l'UNFPI Équateur. Docteur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, il était temps quand même que ces centres de santé, ou peut-être ces zones de santé, puissent bénéficier de ces 4 tonnes de médicaments.
Oui, je confirme. Donc, la semaine passée, nous avons l'UNFPI a octroyé, comme d'habitude, dans le cadre du projet conjoint de lutte contre les violences sexuelles, et lors de 4 tonnes de médicaments et commodités, aux 11 structures des 4 zones sites du projet, dont 6 structures à Mbandaka qui ont reçu le jeudi 7 mai un lot d'environ 2 tonnes équivalent à environ 22 449 $.
Alors donc il s'agit de la zone de santé de Mbandaka, de Makanza, de Bolomba et de quoi encore?
Non, s'il vous plaît, il s'agit des zones de santé de Mbandaka, de Wangata, de Basangusu et de Bongandanga, s'il vous plaît.
Ah, Bongandanga, pas Bolomba, c'est oui. Bongandanga.
Non, pas Bolomba, c'est une autre zone de santé. Donc, c'est une zone de santé dans le territoire de Bongandanga et dans la Mongala.
Et quels ont été les critères de choix de ces zones de santé? C'est là où le problème de santé se pose avec acuité?
Oui, justement, au début du projet, donc, c'est dans ces 4 zones de santé que les statistiques de violences sexuelles étaient élevées et donc on a ciblé ces 4 zones de santé là pour essayer de réduire les incidences des violences sexuelles dans ces 4 zones de santé.
Oui, qu'en est-il alors de la prise en charge médicale dans cette zone de santé donc des victimes des violences sexuelles?
Oui, donc l'UNFPI, le Fonds des Nations Unies pour la population, appuie la prise en charge médico-sanitaire des victimes gratuitement, adoptant les structures de médicaments requis et en formant le personnel chargé de former, de soigner ces victimes-là et à réhabiliter cette structure-là de prise en charge.
Oui, ben voilà, donc assistent les zones de santé en leur mettant le médicament et aussi la réhabilitation des structures sanitaires. Et depuis quand l'UNFPI travaille en collaboration avec ces structures sanitaires?
Oui, donc le projet a débuté en 2004, et il était de 4 ans, donc les 4 ans se sont terminés le 31 décembre passé, mais maintenant nous continuons dans une phase de transition qui fait que comme le fléau n'est pas encore totalement rayé, nous continuons donc à apporter notre appui à ces structures-là, qui ont été choisies sur base de leurs compétences techniques dans les zones de santé choisies.
Oui, mais le résultat par rapport au projet, les résultats poursuivis, est-ce que le résultat aujourd'hui est atteint à hauteur de combien de pourcents à peu près? Votre résultat, 4 ans plus tard?
Ah oui, 4 ans plus tard, en moyenne, l'atteinte des objectifs est à 80%, donc nous pouvons, sans risque de nous tromper, estimer que les objectifs ont globalement été atteints pour ces projets. Et c'est pour cela même que, pour préserver les acquis de ces projets-là, il y a un prolongement, donc on est pour parler avec avec les bailleurs de fonds pour que il y ait encore une continuation de ce projet-là pour d'abord un an de transition avant encore de prolonger pour la suite.
Alors, quels sont les défis qui restent concrètement à relever? Vous avez dit oui, en moyenne, vous avez atteint le résultat à 80%, globalement 80%. Dans les 20% restants, je pense qu'il y a quand même des défis qui restent encore à relever.
Si, il y a des défis à relever. Par exemple, dans la prise en charge médico-sanitaire, il y a un grand défi, c'est que normalement, chaque cas ici, dans chaque nouveau cas de violence sexuelle, doit se présenter dans une structure médico-sanitaire en DA 72 pour y recevoir fraîchement des soins gratuits. Mais on a constaté que dans des zones de santé comme Bongandanga, souvent le cas arrive quand il est déjà assez cas. Alors vous prenez un cas qui devait bénéficier par exemple de PEP kit qui est la prophylaxie contre le VIH. S'il se présente déjà au-delà de 72 heures, donc il ne reçoit pas ce kit-là. Ça, c'est vraiment un premier défi à relever. Il faut qu'on continue à sensibiliser la population pour qu'elle soit éduquée à amener fraîchement et aussi le plus vite possible chaque nouveau cas à temps. Parce qu'il y a encore un tabou où les violences sexuelles sont gérées comme un tabou. Donc les gens ne les dénoncent pas. Et donc, dans cet aspect-là, on doit encore continuer à multiplier les sensibilisations pour que la population puisse essayer de franchir ces tabous autour de la dénonciation des cas de violences sexuelles.
Oui, parlez un peu de suivi, parce que selon nos informations, dans certaines zones de santé, bon, ce n'est pas seulement les cas à l'Équateur, mais aussi ailleurs, là où peut-être l'UNFPI fonctionne et appuie ces zones de santé, il y a certains prestataires qui, normalement, dévient donc la direction même donc de ces dons. Est-ce que cela arrive aussi au niveau de ces zones de santé à l'Équateur? Comment vous faites concrètement les suivis?
Bon, les suivis, nous les faisons à travers les rapports mensuels. Donc, chaque mois, la structure de prise en charge doit élaborer deux types de rapports clés. Le premier rapport, c'est le rapport d'abord des statistiques des cas soignés. Et le second rapport, c'est le rapport des consommations de médicaments. Et sur base de ces deux rapports-là, nous faisons une étude comparative pour essayer de voir une structure qui s'est dit qu'il a soigné un cas, par exemple. Il a consommé, en revanche, combien de médicaments? Nous essayons d'analyser s'il y a une concordance. S'il y a une discordance, nous sommes obligés de descendre sur le terrain dans la structure pour voir et étudier exactement la destination de ces médicaments-là en vue de corriger les failles et même de sanctionner les structures qui se trouvent à avoir détourné les médicaments.
Oui, ben cet appui de l'UNFPI, le dernier d'ailleurs, cette dernière intervention va couvrir quelle période concrètement? Donc le médicament remis aux différentes santé, c'est pour une couverture de quelle période concrètement?
Bon, le lot remis couvre 6 mois, donc c'est un lot qui couvre 6 mois, puisque sur base de calcul de consommation moyenne mensuelle des médicaments de chaque structure de prise en charge, on a fait une commande et sur base de cette commande-là, on a fait une livraison donc qui couvre 6 mois.
Alors, qu'est-ce qui va se passer après 6 mois? Vous allez encore intervenir?
Bon, après 6 mois, donc chaque structure fait le rapport de consommation. Si le rapport de consommation indique que le stock est à voie d'être épuisé, là on étudie comment on peut réapprovisionner. Mais si le stock est encore là, que la structure n'a pas accueilli des victimes à soigner, donc là on voit comment on peut le conseiller si le médicament, si certains des médicaments commencent à tendre vers la péremption, on conseille un peu la structure comment elle peut combattre et utiliser les structures chez l'autre malade vulnérable.
Alors, comment vous vous y prenez pour des cas de fistules?
Oui, pour les cas de fistules, donc, l'UNFPI aussi s'est versé dans les campagnes de réparation gratuite de fistules. Pour tout cas de fistules, qu'il soit dû à une cause obstétricale ou liée aux violences sexuelles ou même à d'autres maladies, tous ces cas-là sont soignés aussi gratuitement dans ces mêmes structures-là de prise en charge.
Et il y a aussi des médecins appropriés pour des éventuelles interventions chirurgicales?
Donc jusque-là dans la province de l'Équateur, l'UNFPI a appuyé la formation de 5 médecins. Et tout récemment, il y a encore déjà, il y a 2 mois qu'on a formé encore 5 autres. Donc on a maintenant 10 médecins formés à réparation des fistules, donc dans 5 hôpitaux de la province, dont l'hôpital général de Bongananga, l'hôpital général de Boende, l'hôpital général de Basangusu, l'hôpital général de Wangata et l'hôpital général de Mbandaka, qui est le centre hospitalier universel de Mbandaka.
Mais il y a tout de même quand même le besoin dans d'autres centres de santé également. L'idéal serait quand même de jeter quand même un petit regard de l'autre côté, donc dans d'autres zones de santé, au lieu de vous focaliser que sur les zones de santé telles que Mbandaka, Bongandanga, Basangusu et Wangata.
Oui, les besoins sont certes grands et puis les ressources disponibles étant limitées, donc nous étalons progressivement d'une zone à une autre, mais est-il qu'il fallait d'abord qu'on commence dans ces 4 premières zones-là.
Alors la seconde étape, les d'autres zones ne seront pas en reste?
Bon, oui, c'est ce que j'ai dit, donc on y va progressivement, c'est à l'allure de l'évaluation des résultats du projet actuel qu'on cible d'autres zones et qu'on apprend, qu'on tire des leçons des élections actuelles pour aller les étaler sur d'autres zones prochaines. Par exemple, le Guémena a déjà été ciblé par un projet Full Fund, sur base des statistiques qu'on recevait là-bas. Donc, en principe, on doit déjà s'étendre sur le Guémena pour y exécuter un autre projet similaire.
Voilà, docteur Jean-Pierre Kassereka, nous rappelons que vous êtes chef d'antenne intérimaire de l'UNFPI Équateur. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup à vous, docteur.